L'entrevue.
L'entrevue ?
L'entrevue ?
L'entre quoi ?
L'entrevue. L'émission d'actualité locale sur Radiola.
3, 2, 1, 0.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'écoute de Radiola, web radio de proximité au pays de Dieulfi-Bourdeau, Drôme Monde. C'est toujours aussi agréable de vous retrouver chaque mardi à 9h30. Vous nous écoutez sur les ondes numériques, l'appli Radiola et également en podcast, bien sûr, sur radiola.media. Alors pour ces entrevues hebdomadaires, nous nous faisons les porte-voix, chers auditeurs et chères auditrices, des initiatives artistiques les plus réjouissantes de notre beau territoire où, il faut bien le dire, il fait très, très bon vivre. Aujourd'hui, on parle pratique artistique, céramique, théâtre, musique et vie ouvrière au féminin. Quel lien entre tout ça, me direz-vous ? Eh bien, c'est la CTEAC, la Convention d'éducation artistique et culturelle, l'un des programmes phares de la communauté de communes que nous nous faisons un plaisir d'accompagner à Radiola depuis quelques années. Alors, tous les trois ans, cette convention se renouvelle en proposant notamment à une compagnie artistique venant d'ailleurs de venir en résidence sur notre territoire. C'est le cas de la compagnie Délisière qui vient tout droit avec quelques virages néanmoins de romans sur Isère. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin au micro Anaïs Serme, Marie Génaud de la compagnie Délisière. Bonjour toutes les deux,
bonjour,
bienvenue.
Bonjour.
Françoise Chaput aussi est autour de la table et du micro, élue à la municipalité du Poët-Laval, vice-présidente culture et solidarité à la communauté de communes Dieulfi-Bourdeau. Bonjour Françoise.
Bonjour Pauline.
Et Caroline Carlini qui se cache derrière un casque et surtout pas devant un micro, qui est chargée de mission culture et solidarité à cette même communauté de communes. Bonjour et bienvenue à toutes les quatre. J'aimerais qu'on commence, si vous le voulez bien, par un petit rappel un peu obligatoire à propos de cette CTEAC, la Convention d'éducation artistique et culturelle, qu'on n'a jamais assez expliqué, je pense, auquel participe la communauté de communes depuis 2014. Est-ce que, Françoise, vous pouvez nous rappeler les enjeux et les objectifs un peu de cette action artistique et culturelle ?
Oui, déjà, merci de nous faire prendre la parole pour ce démarrage de cette CTEAC. Moi, j'aime bien rappeler que nous avons tout de même un lien avec nos financeurs qui sont la DRAC, qui sont la région, l'éducation nationale, le département, la CAF. Et grâce à eux, nous préparons chaque année une nouvelle convention. Donc c'est vrai que les enjeux sont plusieurs, on en a cinq. Hein. On consolide et on développe les actions culturelles pour l'éducation aux arts et à la culture. On soutient la création et l'expérimentation artistique. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. C'est le troisième, c'est le développement des actions en direction des personnes en situation de fragilité. Je trouve que cette CTEAC, si un objectif doit être atteint, c'est bien celui-ci.
D'aller vers les personnes qui sont éloignées de la culture ?
Exactement, ce sont les personnes âgées en institution, ce sont les enfants qui sont également en institution, les quartiers défavorisés, les gens comme ça.
Et les autres fondements, du coup, on en avait cinq.
Nous en étions à trois, effectivement. Donc, c'est valoriser également la culture publique, la lecture publique, et également soutenir et démocratiser l'enseignement musical.
Lapsus révélateur, car la culture publique a bien besoin d'être revalorisée. Et justement, ça m'amène directement à ma question suivante. Quels sont les moyens qui sont mis à disposition des artistes qui interviennent ? Comment ils sont accompagnés de façon générale, Françoise ?
Comment les artistes sont accompagnés ? Eh bien, nous avons notre chargée de mission, Caroline, qui les accompagne chaque fois à leur demande. Et cette action, plus particulièrement pour la compagnie Délisière, est accompagné par le recueil des mémoires en matière, par exemple, pour cette convention, des mémoires des habitants sur la céramique. Donc nous allons recueillir avec la Compagnie des Lisières tous les souvenirs de tous les habitants sur tout le territoire. Vaste enjeu.
Alors je le disais, cette convention territoriale s'ouvre pour 3 ans. Et donc on vient de comprendre la première année, la thématique, c'est la céramique, thématique dont la Compagnie des Lisières va s'emparer. Eh bien merci pour cette très jolie présentation, Madame Chaput. Passons à vous, peut-être Marie-Anaïs. La Compagnie des Lisières mélange théâtre, musique, danse et action culturelle. Alors danse, peut-être que j'exagère, non pas du tout, théâtre, musique et action culturelle. Quels sont vos parcours? Comment la compagnie est née? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors la compagnie des Lisières, je suis Marie Génaud, c'est moi, s'est réparti la parole avec ma collègue Anaïs. La compagnie des Lisières est basée à Romans et dirige un petit théâtre, le théâtre de la Courte Échelle, qui est spécialisé dans le jeune public. Historiquement, l'association à 40 ans quand même, la Courte Échelle a toujours porté les valeurs de l'accès à la culture et particulièrement aux enfants et aux jeunes publics. Donc c'était une compagnie qui faisait plutôt de la marionnette. Et lors de la reprise du théâtre par Anaïs et de la direction en 2014, Anaïs a insufflé sa ligne artistique autour du théâtre et de la musique. N'étant pas marionnettiste et ayant vraiment comme formation, double formation, le théâtre et la musique, elle a insufflé cette nouvelle ligne artistique à la fois tant sur les activités d'action culturelle, puisqu'on a des ateliers au théâtre. Donc en termes de pédagogie, on était sur ces thématiques-là. Et aussi aux propositions de création théâtrale et musicale. Donc à la suite de cette prise en main du théâtre, il y a eu deux premiers spectacles jeunes publics qui ont été créés autour des écritures contemporaines pour la jeunesse, Sacré silence, et puis les 3 jours de la queue du dragon en 2021, qui est un texte de Jacques Robotier qui tourne encore et qui est un spectacle théâtre et musique qui fait une analogie entre les clarinettes et les dragons. Et maintenant, Anaïs travaille maintenant depuis 2022 à un projet assez gros, puisque décliné en plusieurs formes et en un triptyque autour de la mémoire des femmes ouvrières et de leur corps et de l'intimité de leur corps à la fois dans le foyer et au travail.
Anaïs Serm, vous êtes comédienne, metteuse en scène, mais maintenant aussi, depuis que vous avez repris le théâtre et la compagnie, directrice artistique. En fin de compte, quel a été votre parcours? Comment vous êtes arrivée à ce théâtre et à cette compagnie?
Alors moi, j'ai une formation de comédienne à la base. J'ai fait une école de théâtre à Lyon. J'ai beaucoup baigné dans ce milieu-là étant enfant, parce que j'étais aussi fille de comédienne. Donc voilà, je viens un peu de ce milieu-là. Et puis, je suis partie à Lyon et je suis originaire de Romans, sur Isère. Et je suis revenue aux sources quelques années plus tard. J'ai repris à ce moment-là la direction du théâtre après avoir plutôt été interprète, en fait, dans différents spectacles de théâtre de rue, de théâtre en salle, voilà, de différents styles et avec différents metteurs en scène et metteuses en scène. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à créer mes propres spectacles et donc à aussi travailler vraiment sur l'écriture des spectacles, ou en tout cas sur l'adaptation de textes, pour être vraiment dans l'aspect mise en scène aussi de ces spectacles-là. Et ça fait déjà quelques années qu'on est sur Romans avec cette double casquette à la fois de compagnie et de théâtre, donc avec une implantation assez importante aussi sur le territoire.
De cette implantation vient aussi cet attrait pour la culture de territoire?
Oui, tout à fait. C'est vraiment pour l'exemple du spectacle, du projet Ouvrière, qui va nous permettre aussi de travailler ici sur le terrain de Dieulfi Bourdeau. C'est vraiment cette implantation qui m'a permis de travailler et qui m'a donné envie aussi de travailler sur ce thème-là. À Romans, il y a par exemple une grosse histoire ouvrière autour de la chaussure.
Et du cuir.
Et du cuir, c'était vraiment une mono-industrie à l'époque au niveau de la ville. Et c'est vrai que voyant moi-même, habitant à Romans, voyant toute cette histoire qui est pas si lointaine, hein, puisque les dernières usines ont fermé au début des années 2000. J'ai eu envie de raconter cette histoire et de m'en emparer aussi, en travaillant sur l'histoire des femmes ouvrières. Et c'est comme ça qu'est né ce projet autour de l'histoire des femmes ouvrières et cette possibilité de le décliner sur d'autres territoires, justement, en s'inspirant et en travaillant sur l'histoire locale du territoire sur lequel on travaille. C'est ce qui va se passer à Dolphy, enfin sur le territoire.
Alors,
de
ça
Dolphy
me rend extrêmement curieuse. Comment on fait pour extraire, pour s'approprier les caractéristiques sociologiques finalement d'un territoire? Je connais ça avec des chercheurs,
oui, tout à fait.
Avec qui on travaille, ouais. Moins avec des compagnies artistiques.
Ouais.
Comment vous avez fait? Comment vous allez faire en fait ici aussi à Dolphy-Bordeaux? Est-ce que vous avez décliné une méthode qui existe c'est déjà, ou est-ce que vous avez créé vos propres outils?
Alors, c'est un peu les deux. J'ai créé mes propres outils parce que moi, je ne suis pas du tout chercheuse, donc je me positionne vraiment en tant qu'artiste et je n'ai pas du tout la prétention d'avoir une objectivité sur l'histoire. Mais par contre, pour le travail qu'on a déjà accompli sur notre territoire à Romans, on s'est appuyé justement sur un travail avec des chercheurs et avec des historiens dans le cadre d'un projet qui nous a permis de travailler avec un comité scientifique d'historien et qui m'a permis aussi d'acquérir une méthode. Moi, j'aime bien, par exemple, interviewer les gens parce que pour le spectacle en déambulation qu'on va créer ici sur le territoire de Dolphy-Bordeaux, j'adapte certaines parties du spectacle à l'histoire locale et je m'appuie pour ça, pour l'écriture de cette partie-là, sur des interviews. Alors, à Romans, l'histoire étant assez proche, j'ai pu interviewer d'anciennes ouvrières, par exemple. Et c'est vrai qu'interviewer des gens, vous êtes bien placés pour le savoir. C'est quand même un savoir-faire. Et puis, une certaine méthode à avoir.
Oui,
même
il y a plusieurs types d'entretiens, par exemple.
Types d'entretiens.
Il n'y a pas la même chose sur une radio que
tout à fait.
Quand on fait de la recherche.
Exactement. Mmh. Et même moi, si je ne fais pas directement de la recherche, je m'appuie quand même sur des éléments que m'ont donné justement des historiens qui travaillaient sur les sources orales pour essayer de mener des entretiens sans trop, par exemple, les orienter.
Oui,
voilà, c'est toujours un peu... Au début, j'ai commencé comme ça, un peu de manière spontanée.
Bien entendu.
Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même aussi une certaine méthode à suivre, même si, encore une fois, je ne suis pas historienne et donc je suis aussi un peu mon instinct sur qu'est-ce qui va être intéressant pour moi de retenir au niveau aussi artistique, parce qu'il y a toujours plein de choses à dire. Puis après, pour faire un spectacle, il faut en retenir certaines et s'appuyer sur certaines choses pour pouvoir produire une écriture.
Et en tant que compagnie, votre credo semble être un petit peu l'interdisciplinarité quand même. Donc il y a effectivement cette traduction à chaque fois d'un médium à un autre. Du coup, c'est pourquoi vous avez choisi de travailler de cette façon-là? Est-ce que c'est parce que c'est un peu à la lisière que les choses arrivent? Je me suis posé cette question.
C'est tout à fait ça, d'où le nom de Compagnie des Lisières. C'était vraiment cette idée de travailler sur la lisière entre les disciplines. C'est vrai que, comme le disait Marie, moi j'ai une double formation à la fois théâtrale et musicale, et ça m'a toujours intéressée de mélanger ces deux aspects-là. Dans Vouvrière et dans le projet qu'on va mener ici, c'est aussi un aspect qui est très important. Cet aspect musical me tient vraiment à cœur. Dans les spectacles jeunes publics qu'on travaille aussi par ailleurs, on travaille beaucoup sur la musicalité du langage. Et c'est pas juste la musique accompagne le texte, c'est aussi comment ce texte lui-même est musical. Donc il y a vraiment une vraie recherche autour de tout ça qu'on tisse au travers de nos différentes créations et qui est vraiment présente. Et dans le projet qu'on va mener, c'est Chloé Serme-Morin, son nom de scène c'est Caïman, qui est vraiment la chanteuse musicienne du projet et qui est vraiment le pilier musical de ce projet-là.
C'est vous qui écrivez la musique, les textes?
Alors,
comment ça se passe?
Pas tous, il y a certains textes qu'elle a écrits, notamment une des chansons. Sinon, il y a aussi des reprises. Ça nous paraissait intéressant de travailler là-dessus parce qu'il y a aussi une certaine modernité dans ce qu'elle propose. Il y a aussi des chansons, par exemple, assez modernes de Stromae, qui a écrit des chansons assez féministes, ou d'autres exemples comme Yves Jamais, comme plein d'autres chanteurs qui me paraissaient très intéressants de reprendre dans ce cadre-là. Donc c'est un peu un mélange des deux.
La Compagnie des Lisières est une compagnie exclusivement féminine?
Alors non, pas forcément. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes quand même dans la compagnie des Lisières, il faut le reconnaître. Surtout dans ce projet-là, puisqu'il, par son essence même, il met en scène des femmes. Donc il y a surtout des comédiennes. Mais on est aussi entouré d'un régisseur général formidable, qui est un homme.
Donc, nous voilà rassurés. Alors, il semble qu'être femme et ouvrière, c'est un cumul assez handicapant. Mmh. Au regard de ce que retient l'histoire, qu'elle soit petite ou grande, est-ce que c'est pour cela que vous avez choisi comme fil conducteur aussi l'histoire des femmes ouvrières?
Oui, tout à fait. C'est vraiment l'invisibilisation des femmes, alors en général dans l'histoire, mais alors femmes et ouvrières, ça fait un croisement entre
double,
le genre et la classe.
C'est double punition.
Voilà, c'est double punition. Et du coup, c'est une histoire qui est particulièrement effacée. D'abord parce que les ouvrières, elles étaient dans un quotidien tellement chargé et tellement prenant qu'elles laissaient peu de traces quand même, hein, de leur vie quotidienne, personnelle. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est partir à la recherche de qu'est-ce que c'était leur vie, toutes ces petites vies dans la grande histoire. Et en fait, il n'y a pas toujours beaucoup de traces de ça, puisque ça paraissait par essence pas très intéressant. Donc oui, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment ce côté invisible de leur histoire et de leur place particulière de femmes dans le monde du travail aussi. Bon, c'est une longue histoire, on pourrait en parler beaucoup, mais en tout cas, voilà, c'est l'intersection de plein de choses, et c'est ça qui m'a particulièrement intéressée, oui, c'est sûr.
Qu'est-ce que vous avez découvert par exemple un roman sur le milieu ouvrier féminin auquel vous ne vous attendiez pas?
Un roman, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les femmes ont, par exemple, au moment de la désindustrialisation, plutôt dans les années 70, comment elles ont été présentes et comment elles ont initié certaines grèves, en fait. Parce qu'elles étaient c'était comme dans beaucoup d'usines, très genrées, hein, la répartition des tâches à l'usine. Donc elles étaient surtout piqueuses, c'est-à-dire qu'elles étaient sur la couture, de la semelle ou de la chaussure. Et souvent, les piqueuses étaient celles qui menaient les grèves. Et c'était des grèves elles avaient aussi le poids de la société. Par exemple, occuper l'usine la nuit, c'était très mal vu pour une femme ou pour une ouvrière. On pouvait être vraiment traité de femme de mauvaise vie, ouais. Parce que voilà, donc il y avait tout cet enjeu à la fois d'être femme et à la fois d'être engagée, de comment justement leur quotidien et le poids de leur vie personnelle pouvaient agir aussi sur leur engagement. Voilà, j'ai vraiment découvert plein de choses à ce niveau-là, entre autres.
Et vous arrivez ici sur un territoire comme le nôtre, même si c'est proche de chez vous, c'est pas chose facile, vous connaissez pas la céramique du tout. Comment vous allez faire pour débuter, aborder
Et ben justement, c'est tout l'enjeu. Il va falloir que je me plonge dans toute cette histoire. C'est ça qui est passionnant et que j'adore aussi, hein. Alors, je suis très bien entourée par Caroline Carlini qui coordonne tout ça, qui nous donne accès à...
Oui, c'est important.
Voilà, la rencontre de plein de gens. Sans elle, ce serait compliqué parce que, voilà, il faut des gens qui connaissent le territoire pour nous donner accès, justement, aux bonnes personnes, aux bons documents, aux archives, aux personnes qu'on va pouvoir rencontrer grâce aussi à des réunions publiques dont on va certainement parler.
Bah oui.
Et du coup, ça, c'est très important pour moi parce qu'effectivement, j'arrive d'ailleurs et donc j'ai bien conscience que je mets les pieds aussi sur un territoire où il y a déjà beaucoup de gens, beaucoup de choses, beaucoup d'acteurs. Et donc, il faut arriver à naviguer dans tout ça pour trouver les informations qui vont m'intéresser, m'imprégner de l'histoire aussi. Alors, j'ai commencé, évidemment, situer un petit peu l'histoire du territoire, la céramique, etc. Mais je vais venir, sur certaines périodes, m'immerger un peu dans tout ça, faire des recherches, rencontrer des gens pour récolter de la matière et puis, bien sûr, aussi mener des actions avec des groupes de personnes autour du projet, des actions culturelles, des actions de médiation qui vont nous permettre aussi d'intégrer à notre projet les habitants du territoire et les habitantes.
Alors, on va détailler ensemble, effectivement, les 4 premières réunions publiques, les actions qui sont prévues au long de l'année. Mais avant, j'ai un petit cadeau, du coup, pour vous, parce qu'il y a eu des récoltes déjà un petit peu lors de certains projets céramiques et autour de la céramique. Et j'ai récupéré des voix qui lisent, en fait, des paroles d'ouvrières. Donc, en 2022, c'est l'association PMH, Patrimoine Mémoire Histoire, et la Maison de la Céramique qui ont organisé un été de la céramique avec une exposition dédié à la faïencerie Coursanges. Donc, il y a eu un diaporama et la lecture de témoignages d'ouvrières et d'ouvriers ayant travaillé à l'usine. Je vous fais écouter quelques témoignages lus par les voix d'Elisabeth Godard-Bénard et Sandrine Delmas, que je remercie toutes les deux pour leurs infos précieuses, bien évidemment. À tout de suite.
À la sortie de l'école, en 1947, Ma mère voulait que je fasse un apprentissage en couture. Moi, je voulais gagner des sous, tout de suite. Alors, je suis rentrée chez Coursange. C'est ce qu'on faisait à ce moment-là. J'étais jeune, je n'avais aucune idée du niveau des salaires. J'en avais un, et c'était mieux que rien.
Les salaires étaient sans doute normaux dans la profession, mais je considère qu'ils étaient bas en réalité pour les postes de responsabilité moyenne. Pour mon mari, l'usine a pris sur notre vie trop de temps, trop d'énergie. Les besoins de l'usine primaient sur tout, en semaine, en week-end, le jour ou la nuit. L'usine a toujours été la troisième personne de notre couple. Le salaire n'était pas à la hauteur de la mobilisation permanente.
J'étais payée au mois. Les contraintes étaient prises en compte dans les salaires. Mon salaire était convenable. C'est mon travail qui était trop dur. Je pense que les directeurs avaient de bons salaires car ils avaient des avantages matériels importants.
Sans doute la contrainte, être à disposition de l'entreprise, était à peu près prise en compte pour les rémunérations, mais pas le niveau de capacité nécessaire dans le poste. Les postes étaient très inégaux sur ce point. Il fallait une bonne dose d'amour de son travail pour persévérer dans ces conditions de non-gratification par le salaire. Ce qui compensait ce déficit, c'était les avantages de proximité. Pas de trajet, pas de dépenses, pas de temps perdu.
Je ne sais pas si les patrons se souciaient des ouvriers. Peut-être un peu. Je sais qu'après la guerre, ils avaient fait venir un marchand de poissons une fois par semaine. Ma mère en achetait. Il n'y en avait pas ici, et beaucoup de gens n'en avaient pas l'habitude. Ils organisaient aussi des sorties en car, à l'époque où je travaillais. On allait au bord de la mer, je n'avais jamais vu la mer.
L'atelier de décoration était un atelier de femmes, souvent jeunes. L'ambiance était bonne, quelquefois on bavardait un moment, puis on se reprenait. On travaillait sans lever la tête. On était payé à façon. Pour chacune, le rendement comptait. Il y avait plus ou moins de pression, parfois enchantée. L'atelier offrait un confort minimum. Il ne faisait pas toujours très chaud, mais on bénéficiait tout de même de la chaleur des fours, ce qui n'était pas le cas partout. Je me souviens très bien des personnes avec qui j'ai travaillé. À travers le temps, les rapports ont changé. L'esprit est devenu plus revendicatif, plus amer.
Il n'y a sans doute rien à redire sur la gestion interne de l'usine. Mais on peut se demander si on a toujours été au niveau de performance nécessaire par rapport à la clientèle. Une usine qui avait atteint ce niveau d'expérience et de qualité n'aurait pas dû fermer. Question d'usure psychologique? Impossibilité d'accepter les solutions qui pouvaient conduire à la survie? Sentiment d'un ensemble complexe. C'est difficile à comprendre.
Une lecture des paroles d'ouvrières de l'usine Coursange récoltée en 2022 dans le cadre de l'été de la céramique par l'association PMH et la Maison de la Céramique. Voilà, c'était un petit cadeau, Anaïs.
Merci.
Pour plonger dans
les... C'est une bonne introduction.
Oui. Alors, étudier effectivement la vie des ouvrières ici, c'était il y a quand même un bout de temps, même si l'ère industrielle s'est terminée plus tard qu'à Romans, ici. Comment on fait quand on arrive comme ça sur une thématique qui est à la fois très actuelle, puisqu'il y a de la céramique contemporaine, et en même temps très ancienne, car le 19e siècle, c'était l'âge d'or ici de la céramique.
Tout à fait. Ben, je crois que c'est un peu tout l'enjeu justement sur lequel on travaille, parce qu'effectivement, il y a toute cette histoire de la poterie, l'usage qui existe, et puis ce lien à trouver avec les céramistes d'aujourd'hui aussi, les céramistes d'art, qui sont très présents, et je crois qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont céramistes, et c'est ça qui est intéressant, je pense, par rapport au projet, c'est que justement, il y a tout un lien sur le travail féminin qu'on va pouvoir faire entre hier et aujourd'hui, et au-delà de l'histoire aussi, qu'est-ce qui aujourd'hui se fait, qui habite ce territoire, comment les personnes et les femmes travaillent sur ce territoire. Moi, ça m'intéresse de les entendre aussi. Donc je pense que c'est vraiment l'enjeu qui va m'occuper occupée pour ce projet.
J'ajoute que nous nous ferons volontiers à Radiola le relais des témoignages des uns et des autres, même hors de vos temps de présence. Oui. J'imagine qu'on va faire des appels à témoignages aussi.
Tout à fait.
très, très large, en essayant de trouver un maximum de gens. Mm-hmm. Alors, vous allez commencer du coup par quatre réunions publiques qui s'intitulent « Histoire de la céramique, à vous la parole ». Alors là, au moins, c'est très, très clair. Comment vont se dérouler ces quatre rencontres et quand et où ?
Alors, les quatre rencontres, elles vont avoir lieu au mois d'octobre. Voilà, on va s'aider du petit document, l'affiche qui vient de sortir. Il va y en avoir trois, donc début octobre. Quatre début octobre. Le vendredi 3 octobre à 18h à Montjoux, à la salle des fêtes, hein, si je ne dis pas de bêtises. Le lundi 6 octobre à 18h au Poët-Laval.
Au château, petite laine.
Ah oui, prenez votre petite laine. Le mardi 7 octobre à 18h à Bourdeaux, maison des associations. Et le mercredi 8 octobre à 18h à Ésaü, à la salle des fêtes. Voilà. Et peut-être vous pourrez compléter, mais le but de ces réunions publiques, c'est bien sûr de présenter le projet de la CTEAC dans son ensemble. Cette première année autour de la céramique. Et puis, bien sûr, de commencer à amorcer cette récolte de paroles et d'appels à témoignages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de pouvoir récolter... un peu de tout, des photos, des documents, des témoignages écrits s'il y en a, des journaux intimes, imaginons, j'en sais rien, tout ce que les gens peuvent avoir et qui peuvent être intéressants comme matière. Peut-être, je ne sais pas si vous voulez compléter sur la CTEAC.
Francette.
Oui, en écoutant ces propos, je me souviens que l'idée de prendre la céramique comme axe majeur de cette CTEAC est venue également d'un constat qui a été fait par l'étude de la filière céramique, commandée par la communauté de communes du Lefy-Bourdeaux. Et cette étude a révélé que nous avions beaucoup de céramistes à l'heure actuelle, qu'ils ne gagnaient pas forcément très bien leur vie. Et le deuxième constat, c'est que les habitants de la communauté de communes ne connaissaient pas vraiment bien l'histoire. Alors, c'est vrai que les thèmes ont déjà été abordés, comme Pauline le disait déjà précédemment, mais on aimerait que la céramique soit au cœur des sujets pendant les quelques temps à venir.
Ce sera certainement le cas. D'ailleurs, après ces quatre réunions, du coup, vous allez travailler de votre côté. Puis vous revenez en janvier 2026, c'est ça ? Ensuite, pour commencer par offrir des représentations de votre spectacle. Puis ensuite, comment ça se passe ?
Alors,
jusqu'à mai 2025 pour cette première année ?
Il va y avoir différentes étapes. Marie, tu pourras intervenir pour compléter. En tout cas, on va dans un premier temps présenter une petite forme qui s'appelle « Une ouvrière à ton oreille », qui est une forme en duo, plutôt intimiste, en proximité avec le public aussi, pour aller à la rencontre des publics, pas uniquement à Dieulefy, mais vraiment dans l'ensemble du territoire. Donc avec Chloé, chanteuse-musicienne dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment un mélange de textes et de musique qui sont extraits de tout ce projet d'ouvrière sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Et qui donne une première approche artistique de notre travail et de ce travail autour des femmes ouvrières, donc qui est assez global dans ce spectacle-là, hein, qui parle de plusieurs industries, pour aller petit à petit vers la récolte de paroles, le travail avec les ateliers, différents groupes. Je ne sais pas si vous voulez qu'on les détaille, mais en tout cas...
Je sens que Marie est motivée là.
Moi, je suis un peu au taquet. Ouais. On va repartir de nos réunions publiques. En fait, les réunions publiques vont servir du coup d'amorce au projet et puis se faire connaître, c'est un premier temps, peut-être qu'il y aura un peu de pudeur au début, en tout cas identifier qui nous sommes et que ça a vraiment un sens et c'est important de collecter toute cette matière historique, ils appellent ça un peu la littérature grise, les historiens. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est en deçà et qui n'est pas de l'archive pure et dure. Dans le petit déroulé, on a oublié que le 27 novembre, il y a Vincent Porel et Fanny Gallo qui vont faire une conférence à deux voix qu'on tenait absolument à insuffler avec Caroline, parce que Vincent Porel est historien spécialiste des sources orales. Il faisait partie du conseil scientifique de 5 historiens dont Anaïs a parlé. Et il y a vraiment, une technique, une manière de collecter de la source orale qu'il explique très bien, de manière très pédagogue. C'est un prof à l'INSPE à Lyon, donc il est habitué à transmettre cette méthode-là. Et Fanny Gallo, qui travaille, elle, sur la mise en récit. Et qu'est-ce que c'est que la mise en récit historiquement et la théâtralisation de la parole des femmes ouvrières? C'est-à-dire comment leurs paroles, à un moment, ont été reprises dans des pièces de théâtre, ou comment, en fait, elles ont été détournées. Cette conférence, du coup, a lieu le 27 novembre à la...
La maison de la céramique.
À la maison de la céramique. Ensuite, il y a quand même deux phases où tu vas revenir, toi, en solo sur le territoire pour écrire. Et donc, du coup, ça peut aussi être des moments où de la matière aussi arrive de nouveau.
Oui, c'est ça. Ça peut être des moments d'imprégnation.
Voilà, exactement. Mmh. Donc, en décembre et en janvier. En janvier, il y a une ouvrière à ton oreille qui, eux aussi, un temps, je pense... à la fin de ces petites formes qui sont courtes, on pourra aussi ouvrir potentiellement à la parole du public, et qui peut-être aura des choses à transmettre à ce moment-là aussi. Les ateliers commenceront plus ou moins à ce moment-là, janvier-février. Il y a 3 classes de collège de 4e qui auront 2 intervenants de théâtre. Il y a un stage aux vacances d'avril d'une semaine avec une intervenante théâtre, avec une petite restitution en fin de stage. Il y aura l'atelier avec le lien 26 l'autre structure. Les personnes en formation de la maison de la céramique en poterie qui sont invitées à venir faire un atelier adulte pour intégrer la déambulation théâtrale et musicale. Tu as oublié de le dire, mais il y a une grosse dimension participative sur la création qui va être menée à fin mai.
Donc c'est fin mai, ça, on a la date. Du coup, il y aura une déambulation avec qui viendra clore en fait l'année.
Exactement. Et enfin, le chœur avec le KM et Chloé qui va accompagner différents groupes de chœur sur certains morceaux qui pourront... Enfin, qui cloreront, on ne va pas tout raconter.
Voilà. Ah oui, alors là, Marie, vous avez déjà tout raconté. Je pense que. La date. Encore quelque chose à
oui, on peut donner rendez-vous. La déambulation, c'est 31 mai. Donc ça, c'est l'aboutissement de notre année sur le territoire.
C'est ça, moi, je propose qu'on va noter ça tout de suite dans notre agenda, puisque c'est déjà le temps de nous quitter. Oui. Un grand merci, Anaïs Serre, Marie Genot, Francette Chapu et Caroline Carlini, plus en discrétion, mais bien là quand même. On peut retrouver le programme du coup de cette convention et des rencontres culturelles et de récolte de parole, peut-être sur le site de la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux.
Bientôt.
Bientôt, ça ne saurait tarder. En attendant, vous trouverez les infos évidemment nécessaires et l'affiche avec les dates dans l'affiche de cette émission, bien sûr. Et puis peut-être aussi sur le site de la Courte Échelle, de la Compagnie
de Lisière. Oui, tout à fait, il y aura toutes les infos sur notre
théâtrecourteéchelle.fr. Merci beaucoup d'être venu en parler. Puis on aura l'occasion d'en reparler aussi tout au long de l'année sur Radio-La avec grand plaisir. Francette.
Et merci à toi, Pauline, au nom de pour Radio-La, de soutenir et de présenter des actions aussi importantes pour la communauté de communes.
C'est une évidence. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler cette fois-ci des rencontres d'art contemporain Sillon, qui se passent à Dieulefit en octobre. Et vive les radios associatives. À très vite à l'écoute de Radio-La au pays de Dieulefit-Bourdeaux. On se quitte avec une chanteuse engagée à la voix sublime, Colette Magny. Portez-vous bien. On écoute Colette avec avec Mellow Cotton. À bientôt.